Salut tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue à Sortie de zone, édition du vendredi 24 janvier. On a l'impression de vivre une semaine de relâche, en tout cas du côté hockey, mais il n'y a pas de relâche du côté des sujets. Ici Mario Langlois en compagnie de Jérémy Filosa, Philippe Quentin et Guillaume Lefrançois. Bonjour les gars, comment allez-vous?
Salut tout le monde.
Salut.
Allez,
salut Mario.
Semaine tranquille, vous n'êtes pas trop dépourvu, pas de hockey du Canadien cette semaine, pas de hockey en gros de la Ligue nationale. Il y a eu des matchs en début de semaine et à un mois de la fameuse date limite des transactions. Mais à voir et à lire et à entendre tout le contenu sportif lié au hockey d'Amérique du Nord, on a l'impression que c'est demain la date limite, non?
Oui, bon, ça même un petit peu excessif, je dois t'avouer, là, sur les différents sites sportifs, partout, c'est qu'est-ce que les Maple Leafs doivent faire, qui les Oilers doivent-ils échanger? Les Blue Jackets, tu sais, tout à coup, ça vient, c'est comme une surabondance de rumeurs et tout, puis je me dis, tu sais, l'amateur qui regarde ça, il me dit, mais coudonc, qu'est-ce qui se passe, tu sais, tout à coup, tu dois presque avoir le goût de dire, ben, quand il y en aura une transaction, là, vous m'appellerez,
ouais,
vous me le direz.
Ouais,
mais ça va un peu dans,
dans
toutes les directions, puis des fois, je trouve que ça vient un petit peu excessif. Cela dit, on aime ça.
C'est ça
le problème. On aime ça.
Puis en plus, on le sait, on a un peu horreur du vide parfois.
Ouais.
Et puis, ben, comme c'est justement, comme il y a la moitié des équipes, en fait, qui étaient en relâche, ben, c'est sûr que ça fait beaucoup de. Il y a l'entourage de beaucoup d'équipes, finalement, où il n'y a pas d'accès aux joueurs, pas d'accès aux entraîneurs, pas d'accès à rien. Donc, c'est sûr que pour continuer à produire du contenu, à un mois de la date limite, en plus des transactions, c'est sûr que c'est normal que ce soit le genre de sujet qui attire l'attention. Pour ma part, pour m'éviter ça, ben, j'ai plutôt été faire un tour au Rocket de Laval. On a tendance à l'oublier, mais il y a du très bon hockey qui se joue dans la cour arrière du Canadien, on s'entend. Puis
je veux juste en profiter, si tu permets, Guillaume, Mario, Jérémy, pour signaler que cette semaine, il y a un site spécialisé dans les amphithéâtres sportifs qui a fait la liste des 30 meilleurs endroits pour assister à un match dans du hockey professionnel mineur. Autrement dit, des équipes de la East Coast et de la Ligue américaine. Exactement. Et la Place Belle à Laval est deuxième dans ce classement de 30 équipes. Alors, on vante les installations, on dit que c'est vraiment un amphithéâtre magnifique. Et donc, bravo.
C'est un mini Centre Bell, plus espacé, moins de monde. Non, écoute, mais pour revenir au sujet de tout à l'heure, on dirait que les matchs deviennent secondaires. Ce qui se passe à la glace, là, on le regarde, mais on le regarde moins. On est plus intéressé par...
Mais même pendant la saison, ce
même
que tu
pendant
dis,
la
Jérémy,
saison,
souvent, il y a pas
tellement
de monde qui regarde pas les matchs, ils nous écoutent, ils en parlent, puis là, ils embarquent dans le sujet ou ils appellent le soir.
Les histoires secondaires qui arrivent à l'extérieur de la patinoire semblent quasiment plus nous intéresser que le match lui-même. Là, présentement, c'est particulier, il n'y a pas de match et tout ça, mais comme on en a parlé dans le dernier podcast, on se projette souvent dans l'avenir un peu trop rapidement. Mais là, écoute, on est à un mois, puis c'est ça. On est habitué à ça.
On dit que la nature a horreur du vide. C'est un mélange de choses. Abondance de médias qui s'intéressent au hockey. Et quand on focalise uniquement sur le hockey, ben, c'est sûr que, comme je le disais, je pense, dans un podcast récemment, la question qu'on a posée lundi passé, ben, il y en a un autre qui a posé mardi, l'autre mercredi. Et là, le Canada anglais embarque, peu importe. Et là, nous autres, on avait convenu, Guillaume, il nous écrit un courriel tout à l'heure en voulant dire, mesdames, messieurs, à l'écoute, tu sais, on se consulte, on s'écrit, puis de quoi on parle aujourd'hui. Fait qu'à un moment donné, Guillaume, il dit, ça fait 7 podcasts en ligne qu'on parle de Tatar et Petri sur le marché des échanges.
Ouais.
Peut-être qu'on pourrait parler d'autres choses. Mais Guillaume, t'as constaté comme moi que le nom de Petri, à matin puis depuis hier, est partout.
Ben oui.
Et partout, là, la chronique de Friedman, Pierre Lebrun, puis ça. Mais finalement, tu vois toujours une petite ligne qui est pas en manchette, qui dit, mais qui serait bien surpris qu'il soit échangé.
Non, mais écoutez, hier, là, j'ai vu ça sur les médias sociaux. C'était assez intéressant parce que nos amis de The Athletic ont fait un texte sur un monsieur dans les estrades au Centre Bell qui porte un chandail jaune.
Un manteau.
Un manteau jaune. Donc, peux-tu dire qu'il y en a qui se sont un peu moqués de ça en se disant, allez donc prendre quelques journées de congé. je sais pas, prenez des vacances, vous reviendrez dans quelques jours parce que là, à un moment donné, on est rendu loin. Là,
pousse, mais pousse égale.
Mais moi, je me suis aussi posé la question, c'est quoi l'affaire avec le gars, avec le manteau, manteau jaune, plusieurs fois?
Moi, j'ai absolument rien. C'est un article moi, que j'ai bien aimé.
J'ai pas un article de Marc-Antoine Godin en passant.
Ben exactement. Puis de toute façon, la question des congés, on s'entend, c'est pour ceux qui connaissent un peu la dynamique à l'intérieur des médias, on voit venir ces périodes-là justement où le Canadien jouera pas.
Oui.
On prépare des trucs un peu en avance, des trucs plus intemporels. Puis ça, ben c'est une excellente idée de reportage intemporel finalement parce que ce gars-là, ben oui, tout le monde le voit pendant un match, tout le monde voit la petite tache jaune derrière le but. Moi, chapeau à Marc-Antoine, il y a une bonne idée.
Je l'avais jamais remarqué. Je sais pas si c'est parce que je suis daltonien, mais ça avait jamais. Je vous jure. jure, ça n'a jamais attiré mon attention. Moi, ce qui attire mon attention, c'est les mots de publicité virtuelle là, sur en arrière du filet, qui cache souvent les gens derrière le filet. Et d'ailleurs, vous savez, ça c'est un autre sujet, mais c'est dans une chronique que je disais ça, je sais pas si c'est Friedman ou Lebrun, mais que l'avenir là des publicités, là, c'est que bientôt, il va y avoir des publicités dans l'amphithéâtre, mais tout va être virtuel le long des bandes. Et donc, ceux qui annoncent à domicile vont aussi annoncer à l'étranger. Et donc, le client, mettons Lafleur, je sais pas trop, il y en a un qui vient en tête qui annonce à Montréal, mais partout que le Canadien va aller, ben il va annoncer... Il va être visible 82 matchs.
C'est tant mieux, puis ça va éviter des trucs comme moi. Je vais toujours me souvenir, je pense que c'était les séries de 2006, si je me trompe pas, contre les Canadiens, contre les Hurricanes, où il y avait des pubs de Desjardins sur la bande à Raleigh.
Oui, ben oui, parce que les gens achetaient
que j'imagine
la
que Desjardins payaient plus cher.
Ça coûte des peanuts. Je connais quelqu'un, moi, qui vend des billets de Super Bowl. Il annonce en Caroline quand le Canadien joue. Un site là, quelconque, là, pas un gros site, mais il se paye une bande en Caroline.
Mais c'est drôle parce que l'autre jour, je faisais des recherches pour dans les vieux articles d'hockey, puis je suis tombé sur un article que j'ai écrit à l'époque, dans les années 80, puis j'ai interviewé Ronald Coré. Puis là, la grosse nouvelle, c'est que on allait mettre des pubs sur les bandes. Ah! C'était la première fois. L'oublier, là, il y en avait pas sur la glace, là, on n'était pas rendu là. Et là, Ronald Coré, et avec raison, était très nerveux de la réaction des gens. Et la presse, c'était tellement un gros sujet que la presse avait commander un sondage auprès des amateurs de hockey. Et puis, on a fait un gros papier avec le... Êtes-vous pour et contre? Puis, est-ce que ça vous empêcherait d'aller au hockey? Est-ce que ça dit... Tu sais, c'était un sujet énorme, tu sais, que tu regardes aujourd'hui.
Publicité sur les chandails, ben, ça, c'est le nouveau débat, on est plus chez les bancs. Ben,
moi, je suis outré, je regarde plus jamais le hockey.
J'imagine, c'est comme n'importe quoi, tu finis par t'y habituer. Puis, tu sais, moi, à l'âge où j'ai commencé à regarder, il y avait déjà des pubs, donc c'était correct. Mais, par contre, si dans 10 ans, il y a des chandails sur toutes les pubs, je vous cacherai pas que ça...
Il y a des pubs sur tous les chandails.
Oui. Je cacherai pas que ça va faire bizarre au début parce que...
Ben, on le voit chez le Rocket. Tu parlais du Rocket. Ils l'ont encore, le coq?
Dans la Ligue...
L'an passé, il l'avait, en tout cas. Il y avait Saint-Hubert.
En tout cas, je sais que Saint-Hubert est encore, effectivement.
Mais il me semble qu'ils l'ont pas cette année.
Les Alouettes, il me semble aussi.
Oui, tu as raison.
Mais dans la LNH, tu sais, oui, ils en ont sur les chandails d'entraînement, mais pas sur les chandails de match. Puis c'est un peu quelque chose de sacré, si on veut, à nos yeux. Mais c'est ça, effectivement. Ça se peut bien que dans 10 ans, il y en ait. Puis
moi, j'ai pas de problème. En tant qu'on ait un petit logo de publicité, mais que le nom de l'équipe soit clairement affiché, comparativement au soccer, un peu, ça m'énerve des fois de voir un commanditaire.
Hey, Jérémy,
je veux dire, tu vois le nom du commanditaire sur la poitrine.
Je
sais même pas c'est quoi le nom de l'équipe.
Je peux pas être plus d'accord avec toi. Moi, je veux dire, je veux bien endosser mon équipe en achetant son chandail, mais je suis pas un placard publicitaire.
Ben, c'est ça.
Et le chandail de soccer, ben, dans le fond, t'endosses plus le commanditaire que l'équipe. Je comprends pas. Ouais. Puis je trouve que les équipes nord-américaines ont peut-être raté même une opportunité de réinventer le chandail de foot, mais qu'est-ce que tu veux? Ils ont suivi la forte influence, évidemment, du soccer mondial.
On le voit dans la MLS c'est avec Xbox, Bimbo, l'Impact, c'est BMO.
Oui. Pour les commanditaires, ça doit être drôlement intéressant. Puis on remarque que Kevin Gilmore nous disait, là, je suis pas dans le podcast soccer, mais que c'était très difficile de convaincre les partenaires corporatifs d'investir. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Il y a des sports qui ont peut-être plus de marge de manœuvre que d'autres. Pour revenir au hockey, mais le week-end du match des étoiles, les gars, je vais commencer avant de vous parler de la formule et tout ça, vous le regardez, un élément qui retient mon attention, c'est un tweet de quelqu'un qui n'est pas un chroniqueur, j'ai vu passer, je m'excuse de ne pas nommer l'auteur du tweet, ça ne me revient pas, mais je trouvais qu'il posait une bonne question parce que, résultat de l'absence d'Alex Ovechkin en fin de semaine, il sera absent du match retour de lundi, Washington contre les Canadiens de Montréal. Comment voyez-vous ça, vous, vu de Montréal, pour l'amateur qui paie son billet, qui veut voir les grosses vedettes, est-ce qu'il devrait purger sa suspension dans un match à domicile, à Washington, ou premier match sur la route, alors que dans le fond, tu fais payer le prix à l'équipe adverse. Qui s'en plaindra pas à la recherche de victoire quand l'adversaire est privé de un de ses meilleurs joueurs?
Si la Ligue nationale veut absolument sanctionner l'absence d'un joueur vedette, à mon avis, la pénalité devrait être uniquement monétaire. Parce que en privant le joueur d'un match, la Ligue nationale s'immisce dans le résultat potentiel d'une équipe et privilégie le marketing à la performance sportive. C'est que le message que ça envoie, c'est écoutez, vu que vous avez pas fait cette obligation marketing-là, parce qu'on s'entend, le match des étoiles, c'est une opération marketing, il n'y a pas de vraie compétition, ben on va punir votre équipe qui pourrait perdre 2 points au classement. Dans le cas des Caps, évidemment, ils vont faire des séries, mais s'ils étaient sur la ligne, là, ça pourrait être extrêmement problématique. On l'a vu l'an dernier avec le Canadien, 2 points de plus, de moins, ça aurait pu faire toute la différence. Alors que pour des considérations marketing, on affecte le produit sportif, pour moi, là, c'est un manque, je te dirais, même à la limite d'éthique de la Ligue nationale. Et on devrait, à ce moment-là, si on veut pénaliser, Bon, vous voulez pénaliser 100 000 $ peu importe le montant.
Mais comment ça que personne s'élève plus que ça parmi les journalistes même qui couvrent la Ligue nationale en Amérique du Nord, pas juste à Montréal?
C'est ça, ben c'est quand même particulier. Puis c'est sûr, à Montréal, nous, on l'a jamais vraiment vécu comme ce qui se passe avec Ovechkin en ce moment. Mais l'autre chose que j'ajouterais, tu parles de considération marketing, mais justement, c'est qu'on s'entend que ça fait mal à la Ligue du côté marketing de ne pas avoir Ovechkin au match des étoiles. Il n'y a aucun doute, ça serait... Il apporterait quelque chose. Mmh. Mais là, donc, la Ligue, dans le fond, double la pénalité marketing aussi, parce que ça fait mal aussi de ne pas l'avoir. Regarde, c'est un match à Montréal, c'est correct, tous les billets vont être vendus quand même, mais si c'était les Capitals dans un autre édifice où on a plus de misère, puis que ça peut, tu sais, je veux dire, bon, ça touche à la qualité du produit, donc tu fais encore mal à ton côté marketing en enlevant Ovechkin d'un match.
Mais je pense que, c'est négocié dans la convention, je pense. C'est pour ça que là...
Faudra peut-être le revoir. Puis en plus, avec une amende, il y a moyen en plus de prendre, tu sais, que ça, bon, on sait là souvent
ça va au fond d'aide aux anciens joueurs,
exact, fond d'aide. Donc tu sais, une amende, ça sert à quelque chose, mais mettez une amende salée, évidemment là, mettez pas 5 000 $, mais tu sais, si vous mettez un 25 000 $, on va dire quelque chose comme ça, ben là le joueur il va y penser.
C'est quand même curieux parce que dans l'Association nationale de basketball, on s'insurge contre le load management, la gestion de travail, autrement dit la somme de travail qu'un joueur va accomplir. On dit c'est pas correct, si vous jouez pas vous devez être là, puis on aime pas ça quand vous êtes pas là. Puis la Ligue nationale, on dit, ben toi, tu restes à la maison parce que tu n'as pas accompli.
Il y a une incohérence.
C'est complètement absurde.
Mais ça, je regardais pendant qu'on jase l'affiche à vide Ovechkin, puis c'est un gars qui n'a pas manqué souvent de matchs. Hein. Il n'a pas eu de grosses blessures en carrière, mais je regardais l'an passé, il a 51 buts, puis je trouve que c'est important qu'un gars comme Ovechkin franchisse le cap des 50 buts, mais il a joué 81 matchs. Je devine de mémoire qu'il a été suspendu après le match d'étoiles où il a dû s'absenter.
Je crois que oui,
cette année, c'est pas pire, il y en a 34 en 49 matchs, mais il va arriver encore en une saison, 80 matchs. Ben oui.
Ça serait là aussi. S'il arrive à un but de moins,
ça ajoute, je trouve, au rayonnement de Ovechkin, puis par le fait même du hockey, puis de la Ligue nationale en ajout à ce que tu dis, là, par rapport à l'aspect que la Ligue se pénalise.
Qu'est-ce qui fait en sorte que, il me semble, et là, j'étais jeune, mais il me semble, des années 80, on n'avait pas ce débat-là. Les gars y allaient. Est-ce que la charge de travail était moins lourde? Est-ce que les joueurs sentaient que c'était plus prestigieux pour eux? Je sais pas.
J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Peut-être pas tant sur la charge de travail, parce que c'était lourd aussi. Puis, tu sais, souvent, il y avait des visites d'équipes européennes pendant la saison. Puis, tu sais, il y a eu cette panoplie de matchs contre les équipes tchèques, soviétiques et tout. Mais j'ai l'impression que, oui, la notion de prestige était probablement plus forte. Puis les joueurs faisaient pas les mêmes salaires non plus.
Il devait y avoir un bonus.
Puis quand il venait, il était traité aux petits oignons. Puis, tu sais, c'était le fun, parce que souviens-toi, à l'époque, là, c'était les vols commerciaux, puis il était deux par chambre dans les hôtels. Les joueurs n'étaient pas traités de la même façon. Mm-hmm. Aujourd'hui, il faut se le dire, là, ce sont des princes. Là. En voyage, ce sont des princes qui voyagent. À l'époque, c'était pas de même. Alors, t'arrivais à Montréal, mettons, pour le match des étoiles, à Toronto, il y avait le gros banquet, tu sais, la grande fête, tu pouvais amener ta conjointe. Tu sais, c'était le fun. Aujourd'hui, les joueurs
la question des salaires, justement, c'est ça, je suis sûr que ça joue pour beaucoup. Puis le joueur du match, j'entends qu'il gagnait une auto. Probablement, aujourd'hui, tu gagnes une auto, c'est de l'argent de poche pour eux, là, surtout pour les vedettes qui sont là au match des étoiles. Mais dans ce temps-là, je suis pas mal sûr que ça faisait...
Écoute, moi, dans mon cahier Panini, là, quand j'étais petit, là, la page du match des étoiles, là, c'était ça les collants que tu voulais avoir. Ouais. Ça chainait, c'était argenté. Clarence Campbell, les bruns contre les blancs.
Prince de Galles.
Prince de Galles. Et cette page-là, fallait la remplir. C'était la plus belle page du cahier, puis elle nous faisait rêver. Aujourd'hui, je pense que c'est pas mal
c'est
moins.
C'est plutôt mal. Aujourd'hui, il y a 4 équipes. De toute façon, qui se souvient vraiment même du nom des divisions? T'sais, même le nom des divisions dans la Ligue nationale, c'est un peu compliqué. Là, la métropolitaine, l'Atlantique, on parle plus en termes d'Est et Ouest. D'ailleurs, on pourrait revoir tout ça. Ce serait peut-être temps d'honorer des joueurs aussi en donnant des noms d'anciens joueurs, de légendes du sport. Souvent, on dit qu'il y en a qui ne sont pas honorés parce que tout à coup, il n'y a plus de trophées là, à nommer. Mais tu sais, pourquoi on n'aurait pas des noms de divisions carrément identifiés par des grandes légendes de ce sport-là? Parce que dans le fond, quand on pense à ça, les trophées, c'est toute la vieille génération qui est nommée, puis je veux pas les enlever, là, mais tu sais, Conley Smythe, là, aujourd'hui, c'est plus grand monde, c'est qui? Georges Vézina, c'est un peu la même chose. Lady Byng, c'était la femme du gouverneur général à l'époque du Canada, mais tu sais, c'était pas, et ça résonne pas aujourd'hui. Il me semble qu'on pourrait avoir la division Gordie Howe, la division Jean Béliveau.
Ça enlèverait des incohérences comme Détroit dans la division Atlantique, quand Cap Détroit est un petit peu loin de l'océan.
Ouais, exactement.
je pense, en vous écoutant, une formule qui a marché un bout de temps, là, je pense qu'ils viennent de la changer, ou je sais pas si ça dure encore, tu sais, le match des étoiles avec Don Cherry, Bobby Orr derrière les bancs,
ça,
la Ligue
junior.
De l'Ontario, dans le junior. Mettons, si t'amenais, je sais pas, moi, Mario Lemieux à s'assembler un club d'étoiles contre Wayne Gretzky.
C'est ça, exact. Puis donner une pause aux vrais entraîneurs-chefs de la oui. Ligue nationale.
Mais ils l'ont fait une année. Souviens-toi, là, il y a quelques années, il y avait eu un tirage, il y avait eu même, c'est en 2011, il y avait eu un tirage au sort. Tous les joueurs avaient été mis dans un panier. C'était une idée de Brendan Shanahan à l'époque où il faisait partie de la direction de la Ligue nationale.
On avait fait un show à la TV avec ça.
Puis le dernier joueur repêché, vu que c'était plate pour lui, on lui avait donné une auto en compensation. Puis, c'est vraiment choisi comme dans le cours d'école.
C'était Brad Marchand, non?
Non, c'était pas Brad Marchand.
C'était Geoffrey Loupel. À moins que je me mélange l'édition, mais je sais qu'il y a une année Geoffrey Loupel.
Phil Kessel qui était resté le dernier une année.
Kessel
est resté le dernier sur l'estrade une année, puis ils ont mis fin à la formule parce que finalement, ça semblait l'avoir un peu embarrassé.
Mais si on avait fait un genre de formule, les Nord-Américains contre les Européens, ça n'aurait pas été plus intéressant? On l'a déjà fait aussi.
On l'a fait dans les années 80.
Oui, rendez-vous
80. Mais on l'a fait dans l'Association mondiale de hockey. À l'époque, là, moi, j'ai grandi à Québec, je suivais beaucoup la MH, puis un match des étoiles, tout à coup, une année, ça avait été ça, les stars européennes contre les Nord-Américaines.
Dans les années 90,
les Américains
aussi,
contre les Canadiens.
Exactement, je pense qu'il y en a eu une.
C'était ça, la formule.
Mais à partir du moment où tu acceptes que le match des étoiles, c'est un show, c'est une opération de relations publiques, moi, je trouve que le décalage qu'il y avait entre le vrai hockey puis le match des étoiles, c'est l'aspect physique. C'est sûr que dans un match, à quelques exceptions près, il n'y a pas grand monde. Il y en a eu qui n'ont donné des mises en échec dans les matchs d'étoiles, mais le jeu physique est absent. Alors là, ça fait un décalage entre le hockey puis la fenêtre du match des étoiles. Alors que le 3 contre 3, je trouve que le 3 contre 3 de la formule des étoiles n'est pas si loin que ça que le 3 contre 3 de l'overtime, de la prolongation de saison régulière. Alors en ce sens, moi, je trouve que c'est pas mal le meilleur des deux mondes en ce moment.
Moi, c'est pour ça que la formule actuelle, j'ai pas de problème, parce qu'en présentant du hockey à 3 contre 3,
c'est quelque chose
de toute
qui
façon,
à la Ligue. Là,
même dans la Ligue nationale, du 3 contre 3, il n'y a pas de contact de toute façon, donc ça se ressemble pas mal. C'est évidemment que l'intensité n'est pas la même, mais pour le reste, ça se ressemble, c'est du jeu spectaculaire, tout ça. Puis donc, moi, la formule actuelle,
j'aime ça.
Incorrect.
Le show 3 contre 3 en overtime, c'est sûr que l'intensité des points de saison régulière, ça va le coche plus haut.
C'est ça.
Mais les petites gageux, tout ça, moi, j'aime
pas ça. C'est le fun en plus parce que cette année, on va avoir les joueuses,
en plus.
Tu sais, qui vont jouer deux périodes de 10 minutes, je pense. Et ça, on est dans une formule Canada contre États-Unis. C'est exactement ça qui va se faire. Alors ça devrait être intéressant.
Parce qu'on est tellement habitué de voir ces deux équipes-là s'affronter dans une formule 5 contre 5 avec des systèmes de jeu. Ça va être intéressant de voir les meilleures olympiennes des deux pays. On sait que c'est souvent des matchs qui se décident dans les derniers moments du match, de voir à 3 contre 3 qui a les meilleures patineuses, en quelque sorte, ou des talents plus purs ou bruts, non?
Non, c'est ça, absolument. C'est une belle idée que la Ligue nationale a eue. Je pense que c'est parti de l'an passé. Ouais. Puis, peut-être que la LNH a allumé un petit peu trop tard, là, tant qu'à moi. Mais néanmoins, c'est une belle idée. Puis surtout dans le contexte, en plus, où il n'y a pas de ligue professionnelle féminine actuellement, c'est une maudite belle visibilité là, pour le hockey féminin. En attendant, on l'espère qu'il y a quelque chose de mieux.
Il y en a qui n'aiment pas que la Ligue s'oblige à nommer un représentant par équipe, mais ça fait en sorte que le Canadien est représenté par Shea Weber cette année.
Moi, je pense que c'est important, Mario.
Quand
t'es jeune, puis surtout, on dit là, c'est un spectacle, les enfants aiment ça. Moi, je me souviens que ce soit au baseball ou même au hockey, j'allumais la TV. Pourquoi? Parce que je voulais voir le membre de notre équipe et ce qu'il allait faire. Si Shea Weber connaît un match des étoiles extraordinaire, puis c'est lui qui est nommé le joueur
Parce
match.
Que t'étais connecté avec ton équipe, fait que t'étais comme ton ambassadeur.
C'est ça, exactement. Donc moi, je trouve que c'est important. Il y a suffisamment de joueurs au match des étoiles pour essayer de trouver au moins un joueur par équipe. Moi, j'apprécie ça. Puis je sais que ça n'a pas toujours été le cas là, dans le passé. Il y a des années où le Canadien n'avait pas de représentant. Mais je pense que pour l'organisation du Canadien, pour Shea Weber et sa valeur, et pour les partisans du Canadien de Montréal, c'est important que Shea Weber soit là, qu'il fasse un retour au match des étoiles. Max Pacioretty n'était jamais allé.
Ça reconfirme son statut, mais Jérémy, en quelque sorte, statut qu'il avait peut-être perdu quand il pouvait pas le défendre en étant blessé.
Oui, il redevient un joueur étoile, ça le dit, il est au match des étoiles. Donc, pour la valeur du joueur, c'est important, et aussi d'avoir un autre membre du Canadien, autre que toujours juste le gardien, ça fait du bien.
Ça peut un peu changer les les discours sur le Canadien qui est bâti autour du gardien, le Canadien qui a un seul joueur, tout ça. Je disais, oui, c'est vrai, puis c'est vrai salarialement, puis c'est au niveau du salarial, puis c'est vrai certains soirs.
Ça va être le fun de voir dans le concours.
Ça montre
des...
un autre visage, puis ben c'est ça. Ben oui, exact. Le concours des tirs frappés.
Exact. C'est on ça, sait comme... que c'est un des meilleurs, donc on veut le voir. Ça fait quelques années qu'on ne l'a pas vu, donc c'est le fun.
Ouais, et donc vous allez regarder vous allez regarder ça donne. Moi c'est souvent ce qui arrive, ça donne, ça
exactement. La télé va être ouverte, peut-être faire d'autres choses dans la maison.
Tu juste enregistre puis des fois
c'est pas un rendez-vous, mais ouais, c'est peut-être à la maison, en préparant le souper, peu importe.
Exact.
C'est le fun à regarder, c'est
surtout qu'il y a pas grand sport en fin de semaine, tu sais, t'as pas de football, tu sais, s'il y avait des matchs de championnat de football, c'est d'ailleurs ils l'ont placé là pour ça, j'imagine là. Stratégiquement la LNH,
c'est une belle fenêtre qui est ouverte. Donc, oui, c'est sûr que du sport de télé, comme on dit, t'en as moins en fin de semaine.
Et puis même si t'en manques des petits bouts, c'est pas grave. Là, t'sais. Non. C'est parfait.
C'est ça, oui.
Mais juste pour compléter, là, tantôt, je reviens. Ovechkin, là, vous autres, le Canadien content qu'il soit pas là lundi?
C'est sûr,
il est tout le temps bon en plus contre le Canadien. Ouais. Ça, il n'y a aucun doute, le Canadien est content, mais c'est ça, pour les partisans qui ont payé. Je suis convaincu que des gens qui s'achètent une ou deux fois par année des billets. Je suis sûr qu'il y en a là-dedans qui ont dit c'est Washington, je vais y aller, Ovechkin est là, je vais le voir jouer en personne. Et même moi, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Twitter même pour me dire j'y vais à ce match-là, tout ça. Puis c'est là que tu comprends un peu que ces décisions-là qui, dans le grand portrait d'ensemble, là, semblent pas. Tu comprends pas nécessairement les impacts, mais là, quand il y a quelqu'un qui t'écrit et qui dit j'avais des billets pour ce match-là, tu fais comme
écoute, moi, j'étais abonné au site de revente StubHub sur mon téléphone et dans les 24 heures avant un match, souvent, ils vont m'envoyer une notification pour me dire qu'est-ce qui se passe pour le prochain match canadien. Puis depuis 3 semaines ou à peu près, je reçois toujours 24 heures d'avance. Le prix des billets pour le match de demain soir du Canadien a diminué, ont diminué en moyenne de 24, 25, 26, 27, 28, 29%. Donc, est-ce que je vais avoir la même notification d'ici dimanche pour me faire savoir que justement, il y a des gens qui vont chercher peut-être à vendre leurs billets à cause de ça? Ben probablement, puis ça, c'est pas une bonne nouvelle.
Parce que ça me fait penser au fait que, tu sais, dans la Ligue nationale, il y a un paquet de joueurs talentueux, mais dans les joueurs là que tu peux dire, là vraiment, tu sais, si je veux aller voir un match en dehors du fait que t'es partisan de ton équipe, là, tu sais, dans une carte d'attraction de la Ligue, Ovechkin est encore au top.
C'est sûr.
Qui est dans sa catégorie?
Connor.
McDavid évidemment. Ouais. McDavid, Matthews.
Oui. Matthews. Je pense que Crosby. Pasternak va arriver là tranquillement. On dirait qu'on parle peut-être moins de lui parce qu'il est européen puis qu'on le voit moins, mais il y a un talent.
Incroyable. Ovechkin, là, attendez dans 2-3 ans. Hein, parce que dans 2-3 ans, là, il va s'approcher de Wayne Gretzky. Mm-hmm. OK? Il lui manque à peu près 200 buts. Et il faudrait qu'il en marque, mettons, à peu près une quarantaine par année pour les 5 prochaines années pour menacer.
Hey,
écoute, c'est sûr que Ovechkin,
on pensait que
là,
c'était pas touchable, hein, par...
Non, mais ça va être le Mark McGuire du hockey. Quand Mark McGuire pourchassait le record de Roger Maris, même chose pour Barry Bonds. Bon, écoute, on connaît toute l'histoire, les stéroïdes, puis tout ça, mais ça n'a rien à voir. Mais vous vous souvenez l'ampleur que ça a eu dans
le
baseball?
Ça a créé un buzz, c'est
sûr. Écoute, le buzz que Ovechkin va fournir à la Ligue nationale quand il va menacer, éventuellement, je le pense, le record de Wayne Gretzky, je sais pas s'il va se rendre, mais ce gars-là, c'est un gars qui se garde en très bonne forme physique. Il a encore le désir, la passion de jouer. Il est encore très performant. Moi, il n'y a rien qui m'indique que ce gars-là va pas menacer ce record-là un jour.
Si jamais il en manque 5 à la fin de sa carrière, on dira que c'est de la faute du match des étoiles.
Exactement.
C'est comme Markov qui a pas atteint son 1000 matchs en carrière. Mais là, dans la position d'Ovechkin, Philippe qui a dû s'esquiver quelques instants pour aller faire les manchettes avec Patrick Lagacé, mais on se demandait, Philippe, on constate, on jasait, tu sais, dans le fond, Ovechkin qui sera absent lundi, tu payes pour aller voir quelqu'un donner un show. Il est encore au top des cartes d'attraction de la Ligue nationale avec McDavid Mathieu. Je sais pas si t'envoies un autre Crosby. Guillaume parlait de Pasternak qui monte, mais
ça reste un visage. Puis je pense que la Coupe Stanley qu'il a remportée il y a 2 ans a comme cristallisé ça, parce que ça a vraiment ça a donné un socle à sa réputation de joueur de hockey. Parce qu'on a beau dire, t'as beau être le meilleur puis marquer des buts, si tu te fais toujours éliminer par les Penguins de Pittsburgh et Sidney Crosby, comme ça lui est arrivé souvent, et veut pas, les deux, là, c'est la même génération de joueurs, tu sais, il te manque quelque chose. Tu seras toujours le deuxième à en arrière de Crosby. Puis Ovechkin en gagnant une coupe, il en a pas gagné encore autant que Crosby qui en a trois, mais en gagnant une, c'est tellement difficile de gagner une coupe, c'est bravo. Puis je pense que lui, là, ça l'a comme libéré. On a senti qu'il me semble que depuis ce temps-là, il n'est plus tout à fait le même joueur. Avant, il était, tu sais, un peu réservé, il semblait parfois un peu en colère.
Je suis d'accord avec toi.
C'était une drôle de personnalité.
C'est ce qui lui manquait à son palmarès.
Il est complet.
On dirait que ça l'a apaisé. Apaisé. Et là, ça lui donne un moteur pour aller marquer des buts encore. On sent que ça lui a donné beaucoup, beaucoup de liberté parce que je pense que cette pression-là de gagner la Coupe, il veut la gagner encore, là, on s'entend tous là-dessus, mais la pression d'en gagner une dans sa carrière, il ne l'a plus, c'est fait. Et ça, je pense que ça le libère et ça le rend encore plus excitant comme joueur.
Il a dû servir à la Coupe une réplique à la Jerry Maguire, « You complete me ». Je vais retravailler un peu celle-là. Voilà, on revenait sur Ovechkin qui sera absent donc lundi, mais ça fait l'affaire, j'imagine, du Canadien. Je regardais ça, le Canadien. Là, on peut regarder ça de bien des façons. Grosso modo, je me dis, ils peuvent pas perdre plus que 7-8 matchs. 8 matchs, tu sais, dans le fond. Il reste 32 matchs. Fais un calcul rond, là, ben vite. 24. Mettons que t'es à 51 points, tu vas arriver à
94, 95.
Mettons, je m'en barre à 97. Ouais. Là, mettons, même. Peut-être ça va rentrer un peu en bas de ça dans l'Atlantique, mais je pense pas. Mettons 97 minimum, peut-être en haut de ça. Tu peux pas perdre plus que ça.
Non, faut que tu gagnes 2 matchs sur 3. C'est pour ça que c'est presque, c'est impossible, mais là, on n'a pas le même club sur papier.
Pour compléter ce qu'on avait dit aux amateurs de sport en début de semaine, là, puis on se disait, bon, si, finalement, il y a plusieurs équipes qui sont en bataille avec les Canadiens qui ont gagné des matchs en début de semaine, ce qui fait en sorte que depuis la fameuse séquence de 4 victoires en 5 matchs pour le Canadien, dans leurs 5 derniers matchs, le Canadien a récolté 8 points sur une possibilité de 10, mais a perdu un point dans la course aux séries. Ouais. Ils étaient à 9, là maintenant ils sont à 10.
Exactement, puis c'est la semaine. Là. La semaine, ils n'ont pas été chanceux parce que moi j'ai répertorié 9 matchs là depuis que le Canadien est en congé où il fallait qu'une équipe perde pour favoriser le Canadien. Ouais. Alors si tu regardais chacune des rencontres, qui il faut qu'il perde aujourd'hui, là, il y avait 9 rencontres. Sur ces 9 rencontres-là, là, le Canadien frappe 0 en 9. C'est-à-dire que 9 fois, l'équipe qui devait perdre pour aider le Canadien a gagné.
Mais c'est parce qu'il est assez fou, là. Là, en ce moment, c'est les Hurricanes de la Caroline qui ont la dernière place disponible pour les séries. Ils ont 61 points en 50 matchs. Si on projette leur total sur 82 matchs, on arrive à 100 points. Ça, c'est que
la barre est haute.
Ça serait fou. On avait l'habitude de dire ça te prend 95 points pour rentrer en série. L'année passée, avec 96, ça n'a pas fonctionné. Puis là, ben regardez, ça se peut que ce rythme-là ne se poursuive pas. Il va y avoir des matchs, évidemment, là, des équipes une contre l'autre, là, qui vont peut-être. Ça va peut-être faire baisser ce chiffre-là. Puis si ces matchs-là, bien sûr, vont pas. C'est pas des matchs de 3 points, ça va en prolongation. Mais bref, mais comme c'est là, les Hurricanes sont un rythme de 100 points. Et si on regarde seulement la division Atlantique, les Panthers sont troisième en ce moment, 61 points en 49 matchs. Donc eux, c'est un rythme de 102 points.
Puis tu sais, qui aurait pensé que les Blue Jackets, qui ont perdu tellement de bons joueurs pendant la période de l'autonomie, ils jouent du hockey absolument fantastique. C'est quoi, 6 matchs, 6 victoires consécutives dans le moment là?
Oui, c'est ça, exactement.
Les Jackets, 6 en ligne. Là,
8 puis, sur 10.
Puis, ils jouent du hockey extraordinaire. Puis ça, je pense que c'est un imprévu un peu. Là.
Ils n'ont pas laissé aller un gardien numéro 1, eux autres.
Ils ont perdu un attaquant numéro 1.
Puis non, mais je le dis à la blague, évidemment, mais oui, je te laisse compléter.
Mais tu sais, Panarin, Panarin, puis tu perds Bobrovsky, puis tu perds...
Leur joueur de location de fin de saison, Matt Duchene, Ryan Dzingel.
Voilà. Alors, imagine l'impact sur le moral de l'équipe.
Mais t'avais du monde.
Tortorella a fait tout un travail.
Mais il savait qu'il y avait du talent dans le pipeline aussi. Tu sais, quand tu fais des gestes comme ça, c'est parce que tu sais qu'à un moment donné, tu peux spéculer sur l'idée des remplacer. Je veux pas ramener Petrie nécessairement dans la conversation, mais puisqu'ailleurs, dans le circuit nord-américain des médias de la Ligue nationale, on ramène, puis des gars crédibles ramènent le nom de Petrie dans les rumeurs de transactions.
Vu que tu veux plus en parler, tu peux aller prendre ton café. Là,
non, mais il y en a qui l'envoient à Vegas. Je sais pas dans quelle mesure, qu'est-ce que Vegas pourrait donner un retour. Puis il y en a qui l'envoient aussi à Tampa Bay. Et ça peut être étonnant. Puis, si vous me permettez de sortir un peu de Montréal, je suis curieux de voir. Tampa Bay, c'est quand même une équipe balayée l'an passé. Ils reviennent, là, j'imagine qu'ils ont une chose en tête, c'est d'aller jusqu'au bout. Vont-ils être tentés par l'idée de s'améliorer? Julien Brisebois qui disait Pierre Lebrun sur athletic.com qu'il a analysé là dans le travail qu'il fait actuellement. Il vient d'analyser tous les 10 derniers trade deadlines, les 10 dernières dates limites des transactions. Sa conclusion, c'est que dans le fond, il dit qu'il y a eu des échanges terribles, que la moyenne au bâton, elle est anémique, elle est terrible. Il dit, par exemple, l'année que Washington a gagné, des 8 équipes qui avaient gagné la première ronde, I think, là donc c'est pas validé là, à 100%, mais de mémoire à lui, il dit que 7 avaient donné leur premier choix cette année-là, incluant Tampa Bay. Alors ça annonce un gars qui...
Mais j'ai jamais vraiment compris.
Ben ouais, en tout cas, qui va penser bien comme fois avant
ça,
de faire un
ça annonce geste. Aussi que c'est le gros avantage aux vendeurs, parce que moi j'ai l'impression que les acheteurs vont tomber encore dans les mêmes pièges, vont être prêts à payer un petit peu plus. Pourquoi? Parce que toi tu dis, OK, moi je j'embarquerai pas dans ce truc-là cette année. Mais là tu vois ton concurrent direct qui
fait. C'est ça, exact.
Il reste 4 heures à date limite des transactions. Puis là ton propriétaire t'appelle puis dit, hey, as-tu vu ce que, je sais pas moi, les Leafs viennent de faire. Ben là, faut que je bouge moi aussi. Alors, c'est très avantageux pour les vendeurs. Tu peux obtenir des prix, à mon avis, plus élevés que, par exemple, dans le temps du repêchage ou, tu sais, avant la
signature des joueurs autonomes. Il y a une question d'image, d'équipe. Ben, ouais. Eux autres ont bougé, il faut qu'on bouge, nous autres aussi. Et des fois, tu dis, tu sais, à ce temps-ci de l'année, on vise les séries, et les séries, c'est gros, et c'est vrai que c'est important. Mais quand tu te fais balayer en 4 matchs, ou même tu perds en 5, là, tu dis, ouh, OK, ça a-tu vraiment valu la peine pour jouer genre 2 matchs à domicile? Mais bon, écoute, je me suis toujours posé la question, pourquoi les DG attendent le jour de la date limite pour bouger? On a vu dans le passé Marc Bergevin qui commençait à faire ses emplettes mois de décembre, mois de janvier. Moi, je pense que c'est plus intelligent de commencer à faire ton travail plus tôt, puis d'avoir du temps et de la flexibilité.
Ouais, t'as du temps, de la flexibilité, puis aussi, c'est sûr que tu donnes également le temps à ton groupe de refaire une chimie autour de ce nouveau joueur-là. Donc, je pense que ça aussi s'ajoute aux facteurs là, qui font en sorte que c'est mieux de pas attendre vraiment. Là, parce que on le sait, là, la date limite, c'est tout le temps 40 jours avant la fin de la saison. Fait que ça veut dire que le joueur que tu accueilles, il y a 40 jours pour arriver dans sa nouvelle ville, s'installer, penser à sa logistique de vie, s'intégrer à l'équipe. Ses coéquipiers ont 40 jours pour l'intégrer. Ton coach a 40 jours pour essayer de trouver les bonnes combinaisons. C'est pas beaucoup, de devancer
la date limite des transactions. Mais ben c'est le 24 janvier l'an passé par Toronto.
Moi, je trouve que c'est une chose très intelligente à faire. Là.
Mais si t'es vendeur, par exemple, t'attends, t'as fait grimper la surenchère jusqu'à 15 heures la journée, parce que tu peux vraiment peut-être aller chercher un choix d'une ronde supérieure ou avec une équipe qui potentiellement va t'offrir un meilleur choix parce qu'elle va terminer plus beau classement.
Ouais. L'an passé, je pense qu'à chaque année, il y a une division où c'est plus le cas ou deux divisions où c'est plus le cas. Pense juste parce qu'à un moment donné, ça prend deux équipes pour transiger, puis tu sais pas, peut-être tu peux jaser avec une équipe de l'Ouest, avec une équipe de l'Est, mais faites juste regarder le classement dans l'Ouest, les gars, c'est tellement serré. Ouais. Je prends la Pacifique, Vancouver, t'as 58 points, Edmonton, t'as 57, Calgary à 57. Là, les Wildcards d'Arizona à 57, Vegas à 57, Winnipeg est pas mort à 54, Chicago revient à 54. Fait que qui va démissionner le premier là-dedans? Fait que ça pousse ça vraiment là au 24, probablement. Ben oui. À moins que tu sois vraiment sûr de ce que tu veux, que ton idée soit faite, ou que tu sois sûr de... Comme là, le Canadien, on a beau virer ça sur tous les bords, les gars, l'illusion a un peu fondu pendant la pause, en ce sens que là, il y a une couple de...
Les matchs en main.
Ouais, là, tu sais, t'es à 10 points. Le portrait, c'est précisé. Je dis pas que c'est mission impossible, mais quasi. Fait que, tu sais, je pense que dans la réflexion de Marc Bergevin, il
sait où ce qu'il s'en va.
Il va attendre, lui, par rapport à la montée des valeurs de ce qu'il veut transiger, mais je pense qu'il doit savoir pas mal où ce qu'il s'en va.
Oui, je pense que oui. Mais juste pour compléter sur la Pacifique, vite, là, avant de poursuivre sur le Canadien, au moment où on se parle, là, c'est 3 clubs canadiens qui occupent les 3 premières places. C'est quand la dernière fois que dans l'Ouest, ces 3 équipes-là ont participé aux séries la même année? Je ne sais pas, faudrait faire des recherches, mais ça doit faire un bon bout de temps.
Puis t'as Winnipeg qui est pas loin.
Qui est pas loin, puis ça veut pas dire que ça changera pas, là, mais c'est assez particulier de voir ces 3 équipes-là.
Tout un changement avec l'année où les 7 équipes canadiennes ont raté les séries éliminatoires en 2017, si ma mémoire est bonne. Ça fait 2-3 ans maximum.
2018, le Canadien était là.
Ça, c'était vraiment... Ouais, merci Guillaume. C'était vraiment horrible.
C'est ben pour les
mais
pour
en
les
moyenne, c'est un dossier pour d'autres raisons que je m'intéresse. Il y a la moitié des équipes canadiennes manquent les séries en moyenne.
À peu près.
Il manque toujours un minimum. C'est très rare là. Mais en tout cas, c'est ça, c'est une année exceptionnelle.
Mais veut, veut pas. Ça exclut sur 31, 32, c'est à peu près ça. Hey, mais... ça
le jour où les 7 équipes canadiennes seront en série, ça veut dire que ça va broyer aux États-Unis, là, parce que du côté des diffuseurs. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Ça leur appartient.
Il y en doit venir aux diffuseurs canadiens, c'est correct.
Exactement. Hey, je me mets dans la peau des diffuseurs canadiens à 2 millions du match du CH. Là. Je pense à Sportsnet et TVA ici, TVA Sport. Là, je veux dire, je pense qu'eux autres aimeraient bien ça, revoir les Canadiens.
Bon, je me sens un peu mal pour eux. Depuis qu'ils ont investi là, dans le projet de la Ligue nationale de hockey, l'équipe qui leur donne le plus de cotes d'écoute, c'est le Canadien. Puis ils ont eu une série à se mettre sous la dent seulement. C'est très peu pour essayer de rentabiliser leur investissement.
Hey, les gars, on avait amorcé lundi une espèce de ronde de consultation à savoir qui sont les plus méritants pour divers honneurs individuels. On s'en était gardé quelques-uns pour vendredi. Trophée Vézina, Jack Adams, DG de l'année, retour de l'année. Qui veut prendre la peau, Philippe?
Moi, je vais commencer rapidement avec le DG de l'année. Mais je parlais des Blue Jackets de Columbus. Là. Moi,
pas
je
encore Marc Bergevin, Philippe.
peut-être pas cette année. Mais je trouve que le travail que fait Kokolainen, c'est exceptionnel parce que le moral était au plus bas.
Ah, c'est
imagine là, quand les joueurs sont arrivés au camp d'entraînement, puis tu vois, il n'y a plus de Panarin, puis il n'y a plus de Bobrovsky, puis les gars ont signé des gros contrats, 10 millions par année, puis là, tu vois, hey, c'était mes coéquipiers, puis on a battu Tampa Bay l'an dernier, puis on aurait peut-être pu aller un peu plus loin. Et là, remettre ce groupe-là ensemble, puis dire aux joueurs, vous allez y croire, je vais vous amener du renfort et tout, chapeau à toute l'organisation. Moi, ça, je suis très, très impressionné par le travail qui est fait à Columbus.
Moi, j'ai eu peur pour l'organisation des Blue Jackets parce que ce qu'on entendait dire, c'est que si le coup qu'on a essayé au printemps dernier n'a pas fonctionné, puis bon, ils ont quand même fait un bon petit bout de chemin, mais ils ont perdu leurs éléments les plus importants, que peut-être que l'avenir de la franchise était en jeu. En jeu, là, que si on retombait dans une reconstruction qui allait durer encore 4-5 ans, que c'était pas impossible que cette franchise-là, éventuellement, ne s'en sorte pas.
Mais les propriétaires sont riches, par exemple.
Oui, je comprends.
Mais une autre affaire qu'il faut constater, là, Kekäläinen, là, on a l'impression que c'était quasiment suicidaire ce qu'il faisait l'an passé, là. Je veux dire, je pense qu'on est à mesure de constater que lui savait qu'il y avait des talents pour remplacer ceux qui, peut-être, allaient quitter. Il est allé all-in pour donner de l'espoir aux partisans, mais il savait qu'il se retrouverait pas peut-être complètement les poches vides l'année suivante. Puis là, ben, sans avoir une équipe qui aspire aux grands honneurs, c'est quand même...
Absolument. Non, absolument. Il fait partie de ceux
C'est qui ton choix, toi,
mon choix, je vais vous surprendre parce que je sais qu'ils n'ont pas de grands résultats cette année, mais moi, c'est Jeff Gorton avec les Rangers de New York parce que je trouve qu'il est en train de bâtir quelque chose d'intéressant pour l'avenir. D'ailleurs, non seulement... Bon, je vous dis, oui, il y a eu le coup de chance au repêchage de repêcher deuxième et de ramasser Capo-Caco, ça, c'est une chose. Mais moi, je trouve qu'Artemi Panarin, là, on le sait, là, les Rangers, et c'est pas nécessaire, ça n'a pas nécessairement toujours été la destination numéro un pour les joueurs autonomes parce que, bon, quand t'arrives dans les questions de fiscalité, tout ça, c'est peut-être pas la destination de choix. Il a mis la main sur le gros poisson. Ça, c'est une qualité en soi pour un DG. Faut que... Je trouve que c'est un...
Le marché de New York l'aide, là, mais bon.
Ben, ça aide, oui et non. Là, c'est ça. Ça reste que c'est...
Ben, c'est sûr qu'il y a plus de chances d'attirer des joueurs autonomes-là qu'à Montréal.
Oui. Mais disons que, tu sais, on le sait, là, je veux dire, bon, les Panthers de la Floride, souvent, ont du succès. Dallas, Nashville, Vegas, c'est marchés-là qui sont peut-être plus attirants un peu. Donc, moi, je trouve que... Pour le groupe de jeunes qui poussent...
Il va échanger Kreider aussi, je pense, cette année.
C'est ça. Donc, ça, on verra ce qu'il va obtenir comme retour. Moi, je trouve qu'aller chercher Jacob Trouba, quand t'es une équipe qui est un peu en reconstruction, oui, il a donné un défenseur plus jeune, Neil Pionk, mais il va quand même chercher Trouba, qui est un défenseur dans la force de l'âge, qui va l'aider pour plusieurs années. Une autre bonne transaction. Adam Fox, on en a pas beaucoup parlé, mais bon, c'est un bon défenseur. Il y avait une bonne transaction à faire là avec les Hurricanes. C'est un défenseur de l'université qui voulait pas s'entendre avec les Hurricanes. A été le chercher. Il a fait des petites choses à gauche, à droite comme ça que j'aime bien. Puis moi, je trouve que l'avenir des Rangers, c'est de bon augure. Là, il y a un dossier délicat à gérer avec son premier choix, Elias Anderson, qui est retourné à la maison. On va voir comment il va s'en tirer, mais j'aime bien son travail. Mm-hmm.
Moi, j'ai pris Joe Sakic avec l'Avalanche du Colorado parce que Sakic a subi plusieurs, disons, il s'est fait lyncher sa place publique. Là, on va le dire, il y a quelques années, il y a eu des décisions difficiles à prendre, à choisir un peu entre McKinnon et Duchesne et tout ça. Il a tranché et vraiment...
Il a fait le bon choix.
Il a fait le bon choix, mais il a mangé son pain noir sur le coup, mais il a cru en qu'est-ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, l'Avalanche du Colorado, ils ont 62 points, ils sont deuxièmes dans la centrale. Un différentiel de plus 36, c'est le meilleur différentiel de la conférence de l'Ouest. Et tout cela en ayant la deuxième plus petite masse salariale de la Ligue nationale de hockey. Je veux dire, pour moi, là, c'est là le vrai calcul. C'est combien tu dépenses puis combien ça te rapporte quand t'es un directeur général. Et forcé d'admettre que Joe Sakic obtient le maximum de ce qu'il dépense. Donc, pour moi, mon DG de l'année, c'est Joe Sakic.
Il était deuxième sur mon bulletin. Ça, ben... Il fait tout un job. Puis, tu sais, la transaction de Matt Duchesne, ça va payer longtemps à la balance. Là. Samuel Girard, là, c'est...
Rien à ajouter, je suis d'accord avec Joe Sakic. Et mon choix d'équipe qui a gagné la Coupe cette année, tel que révélé à Patrick Lagacé le soir du premier match du calendrier cette année, c'était l'Avalanche Colorado. Ah oui. Fait que je vais être conséquent, mais j'ai rien à ajouter sur ce que vous avez dit parce que je pense que vous avez
bien ton DG résumé. De l'année.
Ben, j'espère que... Tu sais, je trouve ça difficile de nommer un DG de l'année à moitié de l'année, même avec tous les titres, mm-hmm. parce que dans le fond, tu sais pas comment ça peut revirer de bord le reste du chemin qui reste à parcourir, là, mais j'ai bon espoir que ça va continuer dans la bonne direction. Voilà pour Sakic, DG de l'année. Ben, en tout cas, c'est le choix de Jérémy, le mien. Toi, c'était qui, donc?
Philippe, nous avait nommé Jarmo Kekalainen de Columbus.
Kekalainen. Et toi, c'est des Rangers de New York, qui est un bon choix. Trois bons DG. Le coach de l'année, Jack Adams, à mi-chemin. Tortorella mérite un petit peu d'attention. Je dis pas que c'est le candidat, mais ce qui se passe avec Columbus dans les circonstances, c'est intéressant ce qu'il fait.
C'est sûr que si Columbus arrive à faire les séries, là, c'est incroyable.
Il va falloir penser à...
Je pense qu'on n'aura pas le choix que d'y donner. Parce que si on parlait de Jarmo Kekalainen, puis d'essayer de regrouper tout ce monde-là, mais c'est encore plus le coach dans la chambre qui a ce travail-là sur les épaules. Moi, je suis pas un grand fan de John Tortorella, même si c'est un compatriote italien, mais je ne l'aime pas. Non, il est tellement bougonneux, puis en tout cas, il est tellement pas un bon historique. Moi, mon choix, c'est Barry Trotz avec les Islanders de New York, parce que veut pas, encore là... Tu sais, les Islanders, c'est une chose de faire les séries une fois. Mais là, de confirmer une deuxième fois, puis je dis pas qu'ils vont les faire, mais ça s'enligne quand même assez bien. Là. 63 points, ils sont troisième dans la métropolitaine. Encore là, un club qui dépense pas beaucoup. La cinquième plus petite masse salariale de la Ligue nationale à 75,6 millions. De confirmer la présence en deux ans des Islanders de New York avec une masse salariale vraiment basse, c'est tout un exploit.
C'est très drôle parce qu'encore une fois, ton choix, c'est celui qui était deuxième sur mon bulletin.
OK.
J'avais Barry Trotz en deuxième, mais moi, mon premier choix, Mike Sullivan à Pittsburgh. Je vais vous nommer les cinq joueurs des Pingouins qui ont participé à tous les matchs cette année. Teddy Bluger, Dominique Simon, Zach Aston-Reese, Brandon Tanev, Marcus Peterson.
Il va falloir qu'ils continuent de disputer bien des matchs parce qu'on les connaît pas encore.
C'est les seuls qui ont joué tous les matchs.
Moi, je suis
là,
d'accord
avec toi. Regardez
plus
bas. Christopher Letang a raté 8 matchs. Jake Gensel a raté 11 matchs. Puis il y en a pour un bout. Malkin a raté 13 matchs. Crosby a raté 28 matchs. D'avoir continué à faire un club de hockey avec ça, à faire un club gagnant avec ça. Puis on le sait aussi, là, les Pingouins en défense ont jamais, ça fait des années qu'on en parle, qu'ils n'ont pas nécessairement le meilleur groupe de défenseurs, qui n'ont pas le plus de profondeur en défense. Mais là, ça fait deux années de suite qu'il rentre une bonne recrue. L'année passée, c'est Marcus Peterson qui a joué un rôle super important. Cette année, c'est John Marino qui sort un petit peu de nulle part. Je pense que l'entraîneur-chef a son mot à dire là-dedans. Ça part de mérite là-dedans. Donc moi, je trouve que Mike Sullivan fait tout un travail avec les Pingouins.
Tantôt, j'avais envie de nommer Jim Rutherford comme DG de l'année. J'étais là pour la dernière intronisation au Temple de la Renommée. Jim Rutherford a été admis au Temple de la Renommée. Puis je dois dire que quand il était embauché à Pittsburgh, j'étais pas sûr de cette embauche-là sur le coup. Je pensais que c'était un gars dont les meilleures années étaient derrière lui, puis il m'a vraiment cloué le bec. Il a prouvé le contraire, puis je suis tout à fait d'accord avec ta sélection de Mike Sullivan. J'envoyais le nom de Tortorella parce que je savais que ça allait stimuler des discussions, mais je pense que Sullivan, c'est un bon choix. Le Vézina devant le filet, les gars, qui a la palme cette année? Est-ce que tu restes à Pittsburgh?
Non, je reste pas. Non, non? Je vais à Winnipeg. Connor à Lebock.
Lebock, oui.
Ouais. Puis d'ailleurs, puisqu'on parle des Jets, Paul Maurice, j'ai pensé aussi pour le Jack Allen.
Aussi.
Avec ce qu'il a perdu comme défense. Mais c'est ça,
incroyable.
Je pense que c'est une belle occasion avec le Vezina de souligner ce que les Jets ont fait comme travail avec une défense. Là, tu sais, on rit avec le Canadien qui avait tout défait son côté gauche de la défense, mais les Jets, c'est la défense au complet qui a été défaite. Là. Byfuglien est resté à la maison. Trouba a été changé. Tyler Myers est parti. Ben Sherratt est parti à Montréal. C'est beaucoup, beaucoup de pertes. Là. C'est 4 des 6 défenseurs, dans le fond, à temps plein de l'équipe par le passé qui était là. Il te reste juste Josh Morrissey puis Kulikov qui est tout le temps blessé puis qui est encore blessé. Donc, avec tout ça, avec ce que ça comporte comme changement devant lui, je trouve que Connor et les Bucks s'en tirent franchement très bien jusqu'ici. Moi, c'est mon choix pour le Vezina.
Moi, j'ai pris Ben Bishop. Écoute, il y a plusieurs statistiques qu'on peut regarder. Puis, il y a plusieurs gardiens qui seraient méritants. Bien honnêtement, quoi, c'est ton numéro 2?
C'est mon numéro 2 aussi.
OK. J'ai pris Ben Bishop à cause du nombre de matchs qu'il a disputé jusqu'à maintenant, parce qu'il y en a plusieurs qui ont des statistiques peut-être un petit peu meilleures, mais qui n'ont pas disputé autant de matchs. Il a quand même joué 32 matchs cette saison. Son pourcentage d'efficacité est très élevé. Il est très bon parmi les meilleurs à 927. Sa moyenne aussi à 2,28. Et il comptabilise quand même 862 arrêts. Comme je viens de le mentionner, là, tu peux regarder toutes sortes de statistiques, tu peux y aller avec le nombre de tirs reçus, le nombre d'arrêts effectués, puis tu aurais probablement un résultat différent. Mais j'ai essayé de faire la moyenne, la combinaison de tout le portrait et choisir un gars qui, avec plusieurs matchs sous la ceinture, avait sorti quand même de très bonnes statistiques. Puis c'est le gars sur lequel j'ai arrêté mon choix.
C'est bon de parler de Bishop en plus parce que comme il y a seulement 16 victoires, il vient loin dans la liste des victoires. Mais c'est ça, c'est tout le reste de son travail là, qui fait en sorte, je pense, qu'il mérite d'être considéré. Donc moi, je l'ai mis deuxième sur mon bulletin. Puis,
est-ce qu'une équipe peut être une bonne équipe sans un bon gardien de but? Est-ce qu'il y a des gardiens de but qui paraissent mieux parce qu'ils ont une très bonne équipe devant eux? C'est difficile de toujours discerner qui fait la différence, même quand on analyse le travail de Carey Price à Montréal cette année. J'ai envie de penser que s'il avait été meilleur toute l'année, le Canadien serait en meilleure position, même si ça jouait pas très bien devant lui, puis des fois, honnêtement, il y avait pas de chance. Mais tu sais, tu regardes des gars comme Braden Holtby, qui a un pourcentage de 8,97, qui a quand même 18 victoires, et l'équipe est en première place, Washington, nullement menacée. Il y a quelques gardiens comme ça qui ont des chiffres bien ordinaires dans des équipes qui n'en arrachent pas du tout. Je pense à Matt Murray a 15 victoires avec un pourcentage d'efficacité à 900, c'est quand même...
Bobrovski à 8,98. Puis
les Panthers sont dans le portrait des séries quand même. C'est bien pour dire, fait que c'est difficile de départager ça. Tu sais, je serais tenté de donner un petit vote au gars des Islanders. Tu sais que c'est un système de jeu qui protège les gardiens de but. Fait que est-ce que c'est le mérite revient au gardien ou revient au système de jeu? Fait que j'ai de la misère à faire la part des choses, mais j'ai envie d'avoir une mention pour un gars qui sort de nulle part. C'est pas un gars qui gagnerait le trophée, mais j'avais envie de parler de Tristan Jarry.
Oui.
Parce que lui, il est vraiment venu compléter le portrait, puis il fait bien paraître Sullivan, il fait bien paraître Rutherford, il fait bien paraître les Pingouins, puis il joue un rôle vraiment. Mais je sais que c'est pas un gars qui gagnerait.
Non, ça, il gagnera pas, mais disons que dans les héros obscurs de la saison, là, à la 9, fin, quand 29. On regardera ça, parce que lui, tu sais, Matt Murray a connu ses périodes difficiles, là.
Oui.
Et puis, ben, c'est ça. Donc, quand ton gardien numéro un connaît des difficultés, c'est
donc,
une chose.
Donc, c'est mon Vezina B.
Si t'en as un, ouais, c'est. En fait, s'il y avait un trophée pour le meilleur adjoint, là.
Ouais.
Parce que, bon, ben, je pense qu'au jeu d'organisation, Matt Murray. Mais c'est ça. Ça change la donne. Ça permet à ton numéro un de souffler un peu. Ça peut lui donner quelques matchs pour travailler plus techniquement avec son coach de gardien. Donc, oui, c'est franchement toute une job qu'il a fait.
Comme j'ai dit tantôt, il y a plusieurs gardiens que tu peux regarder. On va prendre l'exemple de Carey Price vite, là. Puis il y en a qui ils peuvent dire, parce que tu regardes la colonne, c'est le gardien qui a accordé le plus de buts cette saison, Carey Price. 112 buts. Okay. Mais c'est aussi celui qui a reçu le plus de tirs.
Plus de minutes jouées aussi.
Le plus de minutes jouées dans toute la Ligue nationale. Et c'est aussi le deuxième gardien qui effectue le plus d'arrêts dans la Ligue. Fait que tu sais, il y a tellement de statistiques que tu peux sortir 4, 5, 6 gars puis faire un très bon cas puis dire lui là, tu sais, il mériterait de. Mais bon, on sait que la saison que le Canadien connaît, c'est sûr que c'est pas lui qui va gagner. Mais
non.
C'est juste pour vous dire que tu sais, il y a plusieurs éléments à considérer.
Mm-hmm.
S'il y avait une meilleure équipe, il paraîtrait mieux. C'est évident. C'est évident parce que c'est le dernier rempart. Le retour de l'année, c'est rare qu'il y a 25 candidats pour ce titre-là. Un nom, je sais pas si on peut parler d'un retour. Ça dépend c'est quoi votre définition.
Exact.
Anthony Duclair a toute une saison avec les sénateurs d'Ottawa. Je sais pas si...
Ben lui, il arrive.
Est-ce qu'il y a d'autres noms?
Lui, il retourne pas. Il arrive. Là, il arrive.
Il arrive, ouais. c'est comme l'année où il s'établit.
Ouais.
Mais c'est un retour en quelque sorte que Tu sais, tu te souviens des propos de Tortorella qu'on a un peu vanté tantôt. Je trouvais que c'était de mauvais goût quand il avait dit ça, en voulant dire, je suis pas sûr qu'il comprend, là. Je trouvais que c'était
très ordinaire, très dur. Je comprends que tu veux brasser ton joueur, mais bon, ça, disons que ça, c'était pas la meilleure de Tortorella. Effectivement, Tony Dutler est un bon candidat. Moi, mon choix, par contre, c'est Patrick Laine.
Excellent choix. Il y a eu une année difficile,
année très, très difficile l'an dernier. Moins 24. Différentiel de moins 24 l'an dernier dans un super bon club qui était les Jets. Oui, il avait marqué 30 buts, mais là-dessus, il avait eu 18 buts au mois de novembre. Donc, c'était pas un vrai 30 buts, disons, parce qu'il y a eu énormément de passages à vide pendant la saison. Et puis là, cette année, 45 points en 49 matchs. Son temps de jeu qui est rendu à 20 minutes, c'était 17 minutes l'an dernier. Ça d'habitude, c'est un indice qui ment pas. Différentiel de plus 8. Moi, franchement, Patrick Laine, là, ça change vraiment la donne. Regardez, à cause de ses problèmes, il a été obligé de signer un contrat de 2 ans l'été dernier, étant donné que justement, je pense que sa saison faisait un peu peur à tout le monde, faut se les donner. Et puis ben là, il a prouvé finalement qu'un joueur qui décide de parier sur lui-même dans des moments difficiles comme ça, s'il joue une autre saison comme ça, ben il va aller le chercher son gros contrat de 8 ans. Donc, je pense que Patrick Laine, retour de l'année, j'ai pas de problème avec ça.
J'étais pas certain exactement c'était quoi la définition exactement du retour de l'année. Fait que, j'avais plusieurs candidats dépendant de qu'est-ce qu'on voulait mettre. T'sais, j'avais Anthony Duclair aussi dans ma liste. Et il faut être vraiment content. T'sais, on a parlé il y a quelques semaines de joueurs qui ont des mauvaises réputations. Puis à un moment donné, ils prennent la maturité, ils se trouvent dans la bonne chaise, puis les choses finalement avancent bien. T'sais, j'avais mis Evgeny Malkin qui avait quand même subi une blessure assez grave. Il connaît une très bonne année, 50 points. T'sais, chez Weber, qu'on disait de lui, on sera jamais capable de se débarrasser de ce contrat-là. Il a commencé à ralentir. Cette année, il retourne au match des étoiles. On a parlé un petit peu tout à l'heure, mais t'sais, ça rappelle Jonathan Drouin s'il avait continué de jouer et qu'il avait continué sur la même lancée du début de l'année. Donc,
c'est ça, exact. Ça peut aller dans toutes les directions. Moi, mes deux autres choix sur mon bulletin de vote, j'avais Max Pacioretty, qui venait de connaître 2 saisons de suite. Il venait quand même de connaître 2 saisons de suite plus difficiles.
Excuse.
Qu'est-ce qui te fait rire, Mario?
Non, mais je sais pas. C'est vraiment un rire bon enfant. C'est un rire bon enfant, mais ça n'a rien à voir avec...
Mais tu sais, vraiment, c'est que on avait l'impression que le marqueur de 30 buts était parti, que c'était fini pour lui.
Moi, j'en ai jamais douté.
Match, en tout cas, c'était
il
pas...
Il a fait sauter un autre coach.
Oh.
C'est ça qui
t'es. Galant, vas-tu être là pareil au match des étoiles?
Non, non, il sera pas là.
Pas là.
Il a été remplacé. Weber, pourquoi pas? Il a peut-être le retour des 3 dernières années.
Oui, c'est ça.
C'est drôle, tu me devances, parce que là, je suis en train d'ouvrir une autre catégorie, retour de la décennie. Ouais. Zach Cashin puis Robin Leonard, mais je sais pas s'il y en a d'autres.
Ouais, c'est ça, effectivement, parce que Cashin aussi, ça avait commencé un peu l'an passé, comme chez Weber, justement. Mais oui, si on parle de retour de la décennie, Cashin, Leonard, ce sont de bons choix, absolument.
Mais juste pour être sûr, là, je riais pas de ce que tu disais.
Non,
c'est le nom de Pacioretty. Je sais pas. Ça m'a fait spontanément rire. Puis c'est bon de rire.
Avant
le week-end. On rit pas assez, d'ailleurs, dans la vie. Est-ce que ça vous arrive de vous dire ça des fois? Faut rire plus.
Ouais, des fois, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
On vieillit, les gars.
Ouais.
On devient.
Faut voir l'humour dans les différentes situations.
Je ris souvent dans ma tête, puisqu'à cette heure, il y a des affaires qu'on n'est plus capable. On peut plus rire publiquement, tu sais.
Ouais, il y a ça. C'est une autre affaire.
Je me fais des jokes dans ma tête. J'y trouve bien drôle, mais j'y dis pas.
Ouais. Ben, moi, écoute, Mario, au risque d'aller à contre-courant de ce que tu dis, parce qu'il y avait un point que je tenais absolument à faire pendant qu'on est dans le sujet des trophées, et c'est pas quelque chose qui me fait rire, mais Austin Matthews, cette semaine, dans les choix de mi-saison là, de la PHWA, pour le trophée Lady Bing, Austin Matthews a fini en 2e place, et ça me choque absolument.
Il a fait un geste disgracieux, lui, cette année,
il
non?
Il s'est baissé les culottes, là.
Il y a eu une histoire dans l'entre-saison qui était. Donc, il y a deux choses. Premièrement, hors de l'as, il a fait sa connerie. Il a fait sa connerie sur la patinoire qu'il a fait cet été, je veux dire, qui a fait en sorte que son DG a dû descendre pour le défendre. Le trophée Lady Bing, on s'entend, là. Je pense que. On peut pas juste regarder les minutes de pénalité, là. C'est plein de choses. Donc, ça, c'en était une. Puis, est-ce que tu parles de gestes disgracieux? Je crois que tu penses à, quand tu avais regardé dans le dos de Scott Sabourin en lui demandant t'es qui, toi? Puis en regardant, tu sais, ce qui était un geste très, très, très arrogant. Quand t'es une superstar de la ligue puis tu regardes.
C'est pas un geste violent,
un joueur
mais c'est
de ligue
très condescendant.
Ben, c'est ça, exact. Donc, tu sais, si on pense au trophée Lady Bing, le plus gentilhomme, je veux dire, arrêtons de seulement regarder les minutes de pénalité. pénalités aussi, là, tu sais, puis les points. Il y a d'autres facteurs, je pense, qui rentrent là-dedans. C'est le comportement, c'est la façon générale de se comporter. J'adore Austin Matthews comme joueur. Je suis convaincu qu'il va gagner plusieurs trophées Maurice Richard dans sa carrière. Il va peut-être se développer au point de gagner des trophées Hart. On verra. Il va avoir une très belle carrière de joueur. Mais le trophée Lady Byng, je m'excuse, mais pas cette année, là. Non.
Bien d'accord.
Arrêtez. Posez-vous la question quand on vote pour le Lady Byng. Posez-vous la question, est-ce que cette personne-là est un gentilhomme pour vrai, est une bonne personne? Puis ben Austin Matthews, par ses gestes cette année, a pas montré qu'il en était un. Donc, moi d'ailleurs, quand je vote pour le Lady Byng, une chose que je fais, s'il y a des joueurs que pour qui je veux voter, mais que je suis pas tout à fait sûr de la réputation, je contacte mes collègues de la ville qui le couvre pour demander comment il est en général, ouais. Est-ce qu'il est, parce que ça fait partie de l'ensemble de choses.
Merci d'avoir amené un petit peu de sérieux puis de l'aplomb dans ce podcast-là. Et juste parce que là, dans le fond, j'ai fait ombrage à ta plaidoirie sur Patrick Ricky.
Non, c'est correct.
Mais c'est vrai qu'il y a une bonne année au plan individuel, là, même s'il a fait sauter un coach.
langue sale.
Non, mais je suis bien content pour lui. C'est un gentil homme dans la vie, Patrick Ricky, quand
ouais,
même.
Ça, c'est ça. Si on parle d'obligation médiatique, de tout ça, il n'aurait
pas dû être capitaine.
C'est un mauvais casting.
C'était triste, là. Tu sais, quand ça allait mal pour le Canadien, puis tu le sentais obligé après chaque match de venir s'expliquer, puis il n'y avait plus rien à dire, puis là, il s'auto-flagellait parce qu'il prenait tout sur lui. Tout à coup, tu avais dire. Moi, je veux que les joueurs viennent parler aux journalistes, là, mais lui, des fois, Max, reste donc en arrière un peu de match.
Ça serait une erreur de Jeff Molson, qui aurait poussé son personnel hockey à nommer un capitaine, un propriétaire recru.
Non, mais je pense que honnêtement, là, quand ça va mal à Montréal, peu importe qui tu es, là, ça va être difficile. Guy Carbonneau l'a vécu, puis il y avait tout Guy Carbonneau pour réussir dans ce rôle-là. Puis,
mais chez Weber aime tellement ça qu'il se réjouit des propos publics de Marc Bergevin, l'effet qu'il est à Montréal pour rester. Puis c'est drôle, des fois, on doute toujours de ce qu'il dit publiquement. Puis
c'est parce qu'il regarde au plafond, c'est ça.
Il regarde au plafond.
Tu sais, si je te parle, je regarde au plafond, ça se peut que tu me crois pas.
Tu penses qu'il pense à sa bannière?
Bon, je regarde au plafond. Ah, okay. Oui. On fait des entrevues avec, là, c'est rare qu'il nous regarde dans les yeux.
Des chandails retirés. Non, mais il y a
Weber.
Il n'y a pas de chandails retirés à Montréal. Mais, ah oui, Weber, il n'y a pas un bon contact avec les journalistes.
Ben, il est très, très, très timide, honnêtement. Quand c'est des grosses mêlées de presse, c'est pas quelqu'un qui est à l'aise, là, dans ce contexte-là.
C'est pour ça que Kovalchuk fait un bien incroyable à cette équipe-là.
Parce que tu le crois
qu'il décoince. Tu sais, je te dis pas qu'il est là pour 2-3 ans, mais dans le moment, là, c'est comme si t'avais pris, je sais pas, un cocktail, là, qui décoince.
Non, mais comme Radulov avait fait à ses débuts.
C'est comme manger de la soupe au chou pendant 10 jours. Ça, c'est une autre affaire.
Non, mais écoute, Kovalchuk, là, il est pas encore dans le moule du Canadien. Quand il répond à des questions, il utilise son langage, il utilise un langage qui est familier. Puis c'est vraiment rafraîchissant.
Il n'y a pas eu le mémo encore.
C'est ça, exactement. Non, mais c'est drôle parce que quand Drouin est arrivé avec le Canadien, je me souviens, il avait lancé un message sur les médias sociaux, puis là, il y a du monde qui ont écrit « Hein, coudonc, t'as le droit d'utiliser des médias sociaux, toi, ça durera pas longtemps avec le Canadien. » Et là, je l'ai entendu cette semaine, il y a quelqu'un qui a fait une entrevue avec lui pour lui poser la question « Les meilleurs trucs pour réussir à Montréal. » La première chose qu'il a dit, c'est « Ferme tes réseaux sociaux.
» Hey, les gars, on s'était dit que ça serait plus court cette semaine.
C'est pas... On est dans la moyenne.
Non, mais honnêtement, quand on aime le sujet dont on parle, c'est comme... Tout ce qui nous manque, c'est comme on n'est pas dans un pub. Alors un jour, on fera peut-être un podcast dans un pub. Un vendredi après-midi comme ça, mais c'est ça l'ambiance qui règne, chers amis, à l'écoute dans notre studio. J'avais le cœur léger un peu aujourd'hui,
comme vous avez pu le constater. C'est la
semaine de relâche, les gars, ou à peu près. Alors, c'était Sortie de zone. Merci beaucoup, Philippe Quentin.
Salut, Mario.
On va se reparler aux amateurs de sport. Merci beaucoup, Jérémy Filosa.
Ça fait plaisir. Salut, les gars.
Merci, Guillaume Lefrançois. C'était pas mal bon, les gars. Merci. Et à bientôt. Bon week-end. Salut tout le monde. Merci d'être à l'écoute. Merci de nous suivre.